Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
La querelle des saintes images ou la crise iconoclaste, deuxième partie. Avec la querelle des saintes images ou crise iconoclaste, nous sommes au 8e siècle. On se souvient que le 7e avait été marqué par le règne d'Héraclius, fondateur d'une dynastie qui devait durer un siècle jusqu'en 711. Mais ce même 7e siècle avait été terrible avec toutes sortes de catastrophes, une vague d'invasions, un effondrement financier, une dépopulation due à des épidémies de peste et des pertes territoriales considérables devant les Arabes. Tout avait commencé par une guerre sans merci contre deux peuples qui prenaient l'Empire en tenaille, les Avars au nord et les Perses sassanides à l'est. Héraclius avait fini par conduire contre les Perses une contre-offensive victorieuse en 627-628. Mais le répit obtenu devait être de courte durée puisque Héraclius avait dû faire face aussitôt après à l'expansion fulgurante des Arabes musulmans qui, après avoir écrasé les Byzantins au Yarmouk en 636, s'emparaient définitivement de l'Égypte, de la Syrie et de la Palestine. Tous ces événements se déroulaient sur fond de crise théologique, le monothélisme dont nous avons parlé dans les précédents entretiens. Après l'assassinat de Justinien II, dernier empereur de la dynastie des Héraclides, c'est le chaos qui s'installe avec trois empereurs successifs entre 711 et 717. C'est alors l'avènement de la dynastie des Isauriens, du nom d'une région d'Anatolie, qui gardera le pouvoir à son tour tout au long du 8e siècle. Le premier empereur de cette nouvelle dynastie s'appelle Léon III, qui régnera 34 ans de 717 à 741. D'origine modeste, il se lance très jeune dans une carrière militaire et finit par se faire proclamer empereur. Victorieux des Arabes qui avaient menacé une fois de plus Constantinople, il se consacre à la réorganisation administrative et financière de l'Empire. S'interrogeant sur les causes de tous les malheurs du siècle précédent, il les attribue au châtiment divin et c'est le début d'initiatives très contestables dans le domaine religieux. La première de ces initiatives, c'est la tentative de convertir de force les Juifs et des chrétiens hérétiques. Ensuite, il se laisse persuader par des gens de son entourage que les excès du culte des icônes sont responsables de la colère divine. Il se met alors à prononcer des sermons pour dissuader ses sujets de demander des miracles aux saintes images. Et en 727, il ordonne de retirer l'image du Christ qui se trouvait à l'époque au-dessus de la porte à l'entrée du palais impérial. Cette initiative provoque une émeute, les soldats chargés de l'opération sont lynchés et la population se divise entre iconoclastes, littéralement destructeurs d'images, et iconodules, littéralement serviteurs des images. Ébranlé par la résistance qu'il avait rencontrée, Léon III temporise, mais en 730, il décrète l'interdiction absolue des images dans tout l'Empire. Le patriarche de Constantinople, Germain, est révoqué et il est remplacé par une créature du souverain et l'iconoclasme devient la doctrine officielle de l'État byzantin. À la mort de Léon III en 741, son fils lui succède sous le nom de Constantin V, inaugurant à son tour un long règne de 34 ans. D'abord accaparé par une tentative de coup d'État à réprimer, puis par une nouvelle guerre contre les Arabes, Constantin V décide de frapper un grand coup en réunissant en 754 à Hiéreia, près de Chalcédoine, un concile iconoclaste évidemment non approuvé par le pape. Ce concile condamne le patriarche Germain de Constantinople ainsi que Jean Damascène, mais Constantin, considérant que ce n'est pas encore suffisant, ordonne la destruction de tout l'art religieux, privé comme public, et persécute les monastères qui protègent les iconodules. Inaugurant une politique qui fera florès plus tard dans l'Angleterre d'Henri VIII et en France sous la Révolution, il en profite pour s'approprier les bâtiments et les biens des monastères, déclenchant un exode des moines vers l'Italie du Sud. Lorsque Constantin V meurt en 775, son fils lui succède sous le nom de Léon IV. Il a grandi dans la foi iconoclaste, mais sa femme Irène est iconodule. Léon IV pratique plutôt une politique d'apaisement, permettant aux moines de rentrer et nommant même des évêques parmi eux. Mais c'est seulement sa mort subite en 780 qui renversera la situation en donnant les mains libres à Irène, devenue régente de l'Empire jusqu'à la majorité du jeune Constantin VI. En 784, elle nomme patriarche Tharèse, un iconodule. Après l'échec en 786 d'une première tentative de concile, celui-ci va finalement s'ouvrir en 787. Ce sera le 7e concile écuménique. Il y aura encore un tragique revirement de 30 années avec Léon V l'Arménien, 813-843, jusqu'à l'avènement de Michel III, qui convoquera à Constantinople un nouveau et ultime concile en 843. C'est ce concile qui fixera au premier dimanche de Carême ce que les orthodoxes appellent la fête de l'orthodoxie, encore célébrée de nos jours dans l'ensemble du monde orthodoxe. Cette crise très grave qui a divisé l'Église d'Orient et creusé davantage encore le fossé entre l'Orient et l'Occident a posé un nouveau problème christologique de grande importance. Ce problème va rebondir d'ailleurs au XVIe siècle, en Occident cette fois, avec la réforme protestante, largement dominée par une nouvelle tendance iconoclaste. Il n'est pas impossible que devant la montée de l'islam, radicalement iconoclaste, cette crise ait révélé une anxiété chrétienne sous-jacente. Dans les territoires conquis, on avait imposé, au début du 8e siècle, une interdiction générale des représentations figuratives et attaqué pour ce motif des églises et des synagogues. Mais il est impossible de prouver que ces destructions aient eu une influence réelle sur l'Empire byzantin. L'explication la plus convaincante reste politique, le pouvoir impérial ambitionnant de régner sans partage. On retrouverait ainsi des éléments du totalitarisme arien, la négation de l'incarnation permettant à nouveau de tenir Dieu à distance et laissant libre pour le souverain la place occupée auparavant par le Christ. C'est en tout cas ce que pense le philosophe Alain Besançon, je cite « Une catégorie d'images continue à être maintenue, celles qui ont trait à l'empereur. La figure humaine y reprend ses droits. Non seulement leurs images subsistèrent, mais les empereurs exigèrent pour elles le culte traditionnel. Majorant leur souveraineté aux dépens de celle du Christ, ils remplacent sur les monnaies la croix traditionnelle par leur portrait, qui occupe maintenant l'avers et le revers. L'interdit biblique pris à la lettre n'aurait pas permis ces images. C'est que l'iconoclasme use d'arguments plus circonstanciés et plus sélectifs. » L'empereur Constantin V, auteur d'un traité contre les images, posait le principe suivant. Je cite « Il faut qu'une image soit consubstantielle à ce qu'elle représente, afin que le tout soit sauvegardé, sinon ce n'est pas une image. » Mais comment la représentation d'un être vivant, quel qu'il soit, pourrait-elle être consubstantielle à ce qu'elle représente, c'est-à-dire ne plus faire qu'un avec lui ? En ce qui concerne le Christ, cette impossibilité touche à l'absurde, car on ne peut représenter du Christ que son image humaine. La nature divine ne peut être enfermée dans une image sensible. Par conséquent, en le représentant, est-ce qu'on ne le réduit pas à son humanité ? Et si on dit que c'est la personne qui est représentée, ne fait-on pas de lui une simple créature en faisant comme s'il était une personne humaine autonome, séparée du Verbe divin ? Voilà l'argumentaire des iconoclastes. Pour l'appuyer, ils ont recours à une lettre écrite par Eusèbe de Césarée, 4e siècle, à Constantia, sœur de l'empereur Constantin, dans laquelle il est affirmé que la seule véritable image du Christ serait l'Eucharistie. Je cite « Tu me demandes une image du Christ, mais quelle image du Christ cherches-tu ? Serait-ce la véritable et immuable, celle qui possède par nature ses caractères propres ? Ou serait-ce celle que le Christ a assumée pour nous quand il a revêtu la figure de la forme d'esclave ? Je ne peux pas penser que tu demandes une image de la forme divine. » En effet, le Christ a appris que personne ne connaît le Père sinon le Fils, et que personne n'a été digne de connaître le Fils sinon le Père qui l'a engendré. Il faut donc penser que tu demandes l'image de la forme d'esclave et de la chair qu'il a revêtue pour nous. Or, de celle-ci, nous avons appris qu'elle a été mélangée à la gloire de la divinité et que ce qui est mortel a été englouti par la vie. Cependant, si tu déclares que tu ne me demandes pas une image de la forme humaine, transformée en Dieu, mais l'image de sa chair mortelle d'avant la transfiguration, est-ce que tu ignorerais par hasard ce passage dans lequel Dieu ordonne de ne pas faire d'image, quelle qu'elle soit, de choses là-haut dans le ciel ou ici-bas sur la terre ? Fin de citation. On remarquera dans ce texte que pour Eusèbe, non seulement la divinité est invisible, ce que tous admettent, mais la forme humaine elle-même a été engloutie par la vie divine dans la résurrection du Christ. Son humanité a été dépassée, anéantie. Elle a perdu sa consistance propre, si bien qu'on peut se demander si elle en avait jamais possédé une. L'incarnation n'est plus dans cette perspective qu'un simple état pédagogique transitoire adopté par Dieu pour des raisons pédagogiques, c'est-à-dire pour se mettre à notre portée. Bien différentes seront un siècle plus tard les mises au point de saint Cyrille d'Alexandrie. Je cite « Crois-tu au Fils de Dieu ?» demande Jésus à l'aveugle de naissance, c'est dans Jean chapitre 9. Et l'autre de crier « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Le Christ lui réplique « Tu l'as vu, celui qui parle avec toi, c'est lui. » Et l'aveugle de dire « Je crois, Seigneur » et de l'adorer. Pourtant, n'est-il pas évident pour tout le monde que la nature divine est parfaitement invisible ? Dieu, en effet, nul ne l'a jamais vu, selon qu'il est écrit dans saint Jean. Par conséquent, si le Père avait séparé du Verbe de Dieu l'élément humain comme une apparence, et s'il avait préféré qu'on croie à lui-même à nu tout seul, pourquoi Jésus n'avait-il pas plutôt ordonné à l'aveugle, qu'il avait guéri, de découvrir par raisonnement ce que peut être la nature de Dieu, au lieu de se désigner lui-même en sa réalité corporelle en disant, comme si les yeux mêmes pouvaient le percevoir, « Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. » Ou bien, est-ce que nous prétendrons qu'il n'a pas désigné sa chair ? Mais alors, comment cette chair pourrait-elle être lui ? Dans ce texte, à la différence de celui d'Eusèbe de Césarée, la chair du Christ n'est pas regardée comme une sorte de voile qui dissimulerait le Verbe, mais elle est, d'une certaine façon, le Verbe lui-même. Cela met en lumière la faille du raisonnement de Constantin V, l'idée que la vision et donc la représentation du visage humain du Christ ne donnerait pas accès à la personne divine. Par ce blocage, les iconoclastes trahissent leurs pensées profondes. Ils considèrent en définitive que l'incarnation ne nous donne pas Dieu, ne nous le rend pas accessible, et leur rejet des images se manifeste pour ce qu'il est, un rejet pur et simple de l'incarnation.